On est le 8 janvier 2026. On est au collège Jacques Prévert, à Neuchâtel.
Abdoulaye, tu peux juste me dire où tu vas, ce que tu vas faire là?
Je vais interviewer Christophe Cassou.
Vous écoutez un podcast Transsonore. Transsonore, la transition et l'insertion par le son.
Alors, je m'appelle Christophe Cassou et je suis donc chercheur au CNRS. Je suis climatologue au CNRS.
Comment vous allez?
Comment je vais? Aujourd'hui, je vais bien parce qu'en fait, je trouve que c'est super important d'aller parler avec vous, d'aller parler avec des jeunes collégiens pour de tous ces enjeux-là. Et ça me change un petit peu de discuter avec des politiques, avec des entreprises. Voilà. Donc, je pense que c'est super intéressant parce que pour vous, ensuite, d'être des ambassadeurs de ces enjeux climatiques.
Est-ce que vous aimez votre métier?
Oui, c'est vraiment pour moi un métier passion parce que en fait, il permet donc de satisfaire une forme de curiosité, et de comprendre en fait ce qu'on est en train de vivre. J'ai été, on va dire, drivé ou piloté par la curiosité de comprendre les phénomènes météo. Et ensuite, j'étais pas forcément au tout départ sensibilisé sur le changement climatique. C'est au cours de mes études et de mes recherches et qui m'ont aussi fait prendre conscience que c'était un phénomène, en tout cas, c'est que c'était un défi, mais aussi de partager ces informations. Et je pense que ça nourrit aussi mon appétence, mon envie de transmettre des connaissances pour ensuite donner les clés en fait à vous, à tous les citoyens, pour essayer d'agir ou essayer de s'embarquer dans une transformation de la société.
Quelles sont les causes principales du réchauffement climatique?
Alors, le réchauffement climatique qu'on est en train de vivre aujourd'hui a une seule cause, c'est les activités humaines. Alors, quand on a dit ça, on a un peu rien dit. En fait, c'est les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose non plus. En fait, c'est le fait d'utiliser des énergies fossiles, donc le pétrole, le gaz naturel et le charbon, qui émettent des gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre vont ensuite capturer ou stocker, on va dire, la chaleur sur la planète qui va générer ce réchauffement climatique. Donc le réchauffement climatique est entièrement d'origine humaine. Il n'est pas naturel, contrairement à des fluctuations climatiques qu'on a pu vivre dans le passé il y a 10 000 ans, 20 000 ans ou 100 000 ans.
En quoi les humains sont problématiques?
Alors, les humains ne sont pas problématiques en tant que tels. Je pense qu'il ne faut pas formuler la question de cette manière. C'est certains modes de vie qui sont problématiques. Parce qu'un humain moyen, un terrien moyen, ça n'existe pas. En fait, il y a des catégories d'humains, des catégories sociales, des communautés qui émettent plus de gaz à effet de serre que d'autres. Quand on essaye de voir quelles sont les personnes qui émettent le plus de gaz à effet de serre, donc qui contribuent le plus au réchauffement climatique, généralement, c'est les sociétés occidentales, par nos modes de vie, qui sont très consommateurs d'énergie, qui sont très consommateurs de produits carnés. Et quand on regarde à l'intérieur de sociétés occidentales, en fait, c'est les personnes les plus riches qui sont responsables de la majorité des émissions. Quand on regarde en France, les 10% les plus riches émettent 3 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres. Donc là, il y a une forme d'injustice. Donc en fait, on n'a pas tous, en tant qu'humains, la même responsabilité dans le changement climatique. On a ce qu'on appelle les responsabilités différenciées. Et ça, c'est super important de les considérer parce que on ne peut pas demander à des personnes qui émettent peu de gaz à effet de serre de faire beaucoup d'efforts en termes de réduction des gaz à effet de serre puisqu'en fait, ils n'en émettent pas. Donc en fait, le changement de mode de vie, il doit se faire principalement sur les personnes qui émettent le plus. Et aujourd'hui, c'est les personnes les plus riches.
Est-ce que le réchauffement climatique existerait sans l'humain?
Le climat a toujours changé. Le climat a toujours changé pour des facteurs qu'on appelle naturels. Il y a eu des périodes qui étaient très froides, c'est les périodes glaciaires. Et des périodes qui sont un peu moins froides, c'est les périodes interglaciaires, c'est lequel, dans lesquelles on est depuis à peu près 15 000 ans. C'est la position de la Terre par rapport au Soleil, sur son orbite. L'orbite de la Terre n'est pas stable, dans le sens où parfois elle est plutôt excentrée, parfois type ballon de rugby, on va dire, ou ballon de foot, quoi. Circulaire ou plutôt ovale. Et quand elle est en configuration ballon de rugby, on va dire, la distance entre la Terre et le Soleil est beaucoup plus grande, et donc la Terre reçoit moins d'énergie. Et donc, on rentre dans une période glaciaire. Quand elle est en ballon de foot, on est plus près du soleil, on reçoit plus d'énergie. Donc, on est en période interglaciaire. Ça, c'est tout à fait naturel. Et les activités humaines, par les émissions de gaz à effet de serre, viennent perturber ce cycle naturel. Donc, s'il n'y avait pas eu d'hommes, ou plutôt, si on n'avait pas utilisé du pétrole, du gaz naturel, du charbon, puisque c'est ça qui compte, ce n'est pas les hommes en tant que tels, hein, c'est vraiment l'utilisation des énergies fossiles. Si on n'avait pas utilisé ces énergies fossiles, on s'en irait progressivement, tout doucement, vers une glaciation. Donc, vers un refroidissement. Mais aujourd'hui, parce qu'on émet ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère et parce qu'ils s'accumulent, on va vers un réchauffement. Donc, il n'y aurait pas eu ce réchauffement climatique s'il n'avait pas émis des gaz à effet de serre.
Avez-vous des doutes sur vos propres travaux et comment la science gère le doute ?
Alors, on a toujours des doutes sur ses propres travaux. Et d'ailleurs, c'est l'ADN du scientifique. En fait, les autres collègues challengent les résultats issus des chercheurs eux-mêmes. Donc, la recherche, elle se fait par la confrontation en fait, des idées et par l'évaluation de ce qui est robuste et de ce qui n'est pas. Ces collègues-là vont vérifier que ce qu'on a raconté, ce qu'on a écrit dans un article est juste, est reproductible, il n'y a pas d'erreur, etc., etc. Donc, le doute est géré comme ça.
Quand vous travaillez pour le GIEC, qu'est-ce qui est le plus difficile ? La science elle-même ou la façon dont elle est reçue par les politiques et la société ?
Il y a deux aspects. Il y a le débat entre scientifiques et en tant que scientifique, moi je connais les codes du faire science, de la manière dont on fait la science, les codes dont on se challenge les uns les autres. Par contre, je n'ai pas forcément les codes de dialogue avec les politiques, parce que le niveau ne se place pas sur le même plan. On n'est pas sur le même plan. En fait, on parle de faits scientifiques entre les collègues, et tandis qu'avec les politiques, on parle de comment ces faits scientifiques sont reçus par la société.
Que pensez-vous des fake news ? Avez-vous déjà été victime de fake news ?
Alors moi, je n'ai pas été victime en tant que tech de fake news. J'ai été victime d'attaques personnelles parce que, en fait, je porte des faits scientifiques qui dérangent certaines catégories, certains intérêts particuliers. Aujourd'hui, les fake news sont répandues et elles contribuent, en fait, à mettre le doute dans le débat, de créer du clivage. Et ces clivages, aujourd'hui, empêchent de prendre des décisions qui sont importantes pour changer nos modes de vie et diminuer nos émissions de gaz à effet de serre.
Qu'est-ce que ça fait d'avoir des informations cruciales pour la planète ? Est-ce un lourd fardeau ?
Alors oui, c'est un lourd fardeau, mais c'est aussi une responsabilité. Donc on a la responsabilité de partager ces informations-là parce que le changement climatique est une menace pour les sociétés humaines, pour les écosystèmes. Donc on a un devoir moral, un devoir un petit peu humaniste aussi, et puis on a un devoir éthique de partager ces informations avec le plus grand nombre pour que les politiques s'emparent de ces faits-là et en fassent quelque chose. Quand je dis faire quelque chose, ça veut dire prendre des décisions qui, en fait, embarquent l'ensemble de la population vers des solutions qui vont lutter contre le changement climatique, mais surtout qui vont apporter plus de bien-être.
Est-ce que votre métier a changé votre vie, votre façon de vivre au quotidien ?
Oui, parce qu'en fait, quand on connaît les causes du changement climatique, il y a un devoir moral aussi de pas d'abandonner ces pratiques-là, puisqu'elles sont nuisibles et elles accroissent le changement climatique. Donc, par exemple, moi, je me déplace énormément en vélo dès que possible. J'ai réduit ma consommation de viande aussi. Je suis plutôt d'une génération où prendre l'avion était un réflexe. Et aujourd'hui, je ne prends l'avion que lorsque c'est vraiment nécessaire pour mon travail. Et encore, j'essaye de limiter. Et on a par exemple instauré dans notre laboratoire une politique de réduction de voyage en avion pour avoir qu'on appelle un budget carbone qui est compatible avec le fait de limiter le réchauffement climatique.
Pensez-vous que votre venue au collège va changer quelque chose ?
J'espère. J'espère que, en fait, vous allez prendre cette casquette d'ambassadeur et donc de porter en fait ces faits scientifiques. Et puis, l'intention, c'est en fait de susciter les discussions. Et donc, commencer à discuter avec vos parents, avec vos amis, susciter de la discussion sur ces enjeux climatiques. Et ensuite, déjà, on va dire, c'est gagné.